Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, l'émission est animée par l'émission Mode d'emploi est animée.
Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, donc, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animée par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les vendredis du mois, comme tous les derniers vendredis du mois. Alors, avec pour présenter l'émission aujourd'hui Didier et Mathieu, ainsi que Claude et Clémence à la technique. Alors, nous accueillons également Camille, qui viendra renforcer l'équipe de la Fondation Copernic. Alors, l'émission de ce soir est intitulée « Le logement, un droit pour tous ». Effectivement, on a voulu faire un bilan sur cette question au moment où se déroule une campagne qu'on considère importante autour de ce thème du logement cher et du droit au logement pour tous. Nous en reparlerons d'ailleurs au cours de cette émission, pour laquelle nous avons deux invités. Alors, Pierre Concialdi, qui est chercheur et spécialiste des questions de précarité, et par ailleurs animateur du réseau Alerte contre les inégalités. Pierre a publié différents ouvrages sur la précarité de l'emploi, mais il a également participé, c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui, au lancement de la campagne nationale unitaire contre le logement cher, un toit, c'est un droit. Voilà. Avec, on en reparlera, le DAL et différents mouvements sociaux. Nous accueillons également François Giunta, qui est adjoint au maire de Saint-Ouen. Et nous parlerons avec lui des pratiques qui sont menées dans la ville de Saint-Ouen justement pour essayer de lutter contre le logement cher et en matière aussi éventuellement d'hébergement, des questions qui sont posées à tous ceux qui aujourd'hui sont dans la rue. Enfin, en deuxième partie d'émission, nous passerons un extrait d'interview de Pierre Tartakovsky, qui est responsable de la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que, également, à côté de la campagne qui a été lancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la plateforme Logement des mouvements sociaux, une autre action est menée en direction de l'hébergement. Un 115 urgence a été lancé pour permettre justement aux personnes qui sont en situation d'hébergement d'urgence de pouvoir disposer d'informations juridiques sur leurs droits en la matière.
Donc vous êtes président ici même, donc la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi cette initiative aujourd'hui alors qu'on sait très bien que la misère du monde date depuis des décennies et que même l'abbé Pierre en 54 avait commencé à tirer le signal d'alarme? Pourquoi avoir attendu pour créer un nouvel outil fédérateur?
Alors d'abord, nous n'avons pas attendu.
Oui, un petit problème technique visiblement. Merci de rétablir. Donc nous repasserons, comme c'est indiqué, un petit peu plus tard cette interview de Pierre Tartakovsky. Nous allons donc commencer tout de suite par les questions à nos invités. Alors, peut-être pour introduire un peu ce débat autour de la question du logement, j'indiquerai peut-être quelques éléments chiffrés, mais je crois qu'on y reviendra très largement au cours de cette émission. Quelques chiffres donc pour introduire. Aujourd'hui, on estime à peu près qu'il y a 3 millions de personnes qui sont mal logées en France. C'est un des chiffres qui est avancé par différentes associations et en particulier la Fondation Abbé Pierre. L'INSEE indique dans ses publications à peu près 130 000 personnes sans logis, ce qu'on appelle plus classiquement les sans domicile fixe. On y reviendra, je crois que Pierre là-dessus nous dira des choses. Le fait que de plus en plus aujourd'hui, les gens sont amenés à dépenser une part importante de leurs revenus pour pouvoir se loger. Donc voilà un petit peu le cadre. Aussi, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler, un cadre juridique, la loi Dalo, qui théoriquement est là pour essayer de résoudre ces questions. On essaiera de voir si éventuellement cette loi permet de résoudre cette question du mal logement. Mais je serais tenté de penser de vous poser une première question, donc à l'un comme à l'autre. En gros, pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait autant de personnes qui soient ou à la rue ou mal logées, ou dans des situations de logement véritablement dégradé. Qu'est-ce qui veut commencer à prendre la parole ?
Je veux bien commencer à dire un mot pour
Pierre Concialdi.
En quelque sorte dresser le paysage. C'est clair que le logement, c'est une préoccupation majeure parce que c'est devenu, et c'est pas nouveau, ça fait déjà un certain nombre d'années, le premier poste de dépense des ménages. Donc il y a une façon de mesurer l'effort que représentent les ménages et on calcule ce qu'ils doivent dépenser pour se loger et puis on le rapporte à leurs revenus. On appelle ça le taux d'effort. Et évidemment, enfin on peut le faire de différentes façons, mais même si en général le plus simple c'est de le faire après les aides qu'ils ont reçues, parce qu'il y a quand même des aides au logement. Bon, même si elles ont diminué, on y reviendra peut-être un petit peu, mais enfin bon. Donc lorsqu'on fait ce calcul, on constate qu'aujourd'hui effectivement le taux d'effort non seulement il est très élevé, pour la moitié des locataires du secteur privé, il représente plus de 40% de leurs revenus, ce qui est tout à fait considérable. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'en fait, il a très très fortement augmenté depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et il n'a pas augmenté de la même façon pour tous. C'est-à-dire que si on divise la population en quatre, le quart les plus riches, le quart les plus pauvres, et puis la même chose au milieu. Pour le quart les plus riches, il a pratiquement pas augmenté le taux d'effort. C'est-à-dire que ces ménages consacrent le même pourcentage de leurs revenus qu'il y a 15 ans pour se loger. En revanche, pour le quart des ménages les plus pauvres, c'est considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils dépensent près de 35%, 34% de leurs revenus pour se loger, et ça a augmenté de 10 points. Depuis 15 ans. Donc on voit qu'il y a un phénomène tout à fait massif et très très rapide surtout. Parce que lorsqu'on voit une charge incompressible, parce que bon, le logement, il faut le payer tous les mois. Il n'y a pas de miracle. Il faut,
ou alors effectivement, on est expulsé comme c'est le
cas. Ou alors effectivement, on a de grosses difficultés et on se retrouve dans des situations très précaires, situations d'urgence, etc. On en reparlera peut-être. Donc je crois que ça, c'est le premier phénomène. C'est une augmentation massive de l'effort que les ménages, notamment les plus pauvres, doivent consacrer à leur logement. Alors pourquoi ? Ben c'est malheureusement assez simple. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un effet de ciseau très très massif. C'est-à-dire que je parle des locataires, les loyers, ils ont augmenté bien plus vite que l'inflation depuis 25 ans, deux fois plus vite. Donc c'est tout ça s'est même accéléré sur la période récente.
Depuis 10 ans, 42% d'augmentation des loyers en moyenne.
Oui, bah après effectivement, ça a continué sur les dernières années, mais c'est un phénomène qui avait déjà été amorcé en fait de longue date. Et en fait, la petite nouveauté entre guillemets, c'est que les revenus des locataires, et notamment des locataires les plus modestes, ont vraiment de plus en plus décroché des revenus moyens. Je vais vous donner quelques chiffres. L'écart par rapport au quart des ménages les plus pauvres par rapport à la moyenne, c'était moins 5% en 85, c'est passé à moins 20% en 2005. C'est-à-dire que non seulement les loyers augmentent plus vite que l'inflation, mais les revenus de ces ménages, ils sont à la traîne. Et donc, il n'y a pas de miracle. Le taux d'effort, c'est-à-dire ce qu'ils doivent consacrer pour se loger, a augmenté de façon considérable, de façon insupportable. Et il n'y a pas que le logement. Je veux dire, si on prend l'ensemble des dépenses que l'INSEE considère comme incompressibles, je ne vais pas en faire la liste, mais en l'espace de 5 ans, pour les 20% de ménages les plus pauvres, donc pas le quart mais le cinquième, c'est passé de 50% à plus de 70% de leurs dépenses. C'est-à-dire que voilà, il leur reste pour arbitrer sur le quotidien quelque chose qui est tout à fait faible, 30% sur des revenus qui sont en plus tout à fait modestes.
Et sur Saint-Ouen, alors une ville ouvrière, on peut dire, comment est-ce que ça se traduit,
oui,
tout ça?
Mais je viens de dire un mot sur Saint-Ouen, mais peut-être un complément sur ce qui vient d'être dit.
Absolument.
D'abord, parce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais parce qu'il y a un autre phénomène. Le logement et les loyers ont considérablement augmenté parce que la part du logement social diminue. Et ça, c'est un vrai problème. La loi SRU qui prévoit la construction de 20% de logements sociaux par ville n'est toujours pas respectée. Et donc, je fais le parallèle avec Saint-Ouen. Saint-Ouen, qui aujourd'hui construit 40% de logements sociaux, se trouve avec une masse de demandeurs qui est autour des 4000 demandeurs parce que les gens se disent, dans cet endroit, encore, il y a la possibilité d'avoir un logement qui n'atteint pas les prix que vous dénonciez.
Dans
parce
le privé.
Que, dans le privé. Parce que le logement, c'est l'ensemble du logement privé et social. Et le bon qu'il y a eu dans le privé est tout à fait exorbitant.
Vous, à vous êtes à quel pourcentage de HLM sur le...
40% de logements sociaux.
Vous êtes bien au-dessus de la...
Donc, nous maintenons ces 40% de logements sociaux. Et donc, nous battons, je ne sais pas d'autres mots, sur la question du prix même du logement social. Parce que par effet d'entraînement, le fait qu'il n'y a pas de construction de logements sociaux s'attire autour des villes, autour de nous, le foncier vers le haut. Et un foncier plus cher se traduit, y compris pour le logement social, par des loyers plus chers. Donc il y a, à mon sens, une première raison qui me paraît être fondamentale, c'est qu'il faut absolument construire en région parisienne entre 600 et 800 000 logements sociaux.
Justement, voilà. Pierre Consaldi, sur la situation, le diagnostic, quelles sont vos analyses? Il y a un manque de logements et aussi des politiques publiques qui vont pas contrecarrer.
Personne ne conteste qu'il manque des logements. Hein. Je crois que le chiffre qui fait consensus, c'est de l'ordre de 1 million de logements. Donc c'est tout à fait considérable, évidemment. L'autre manque dans les politiques publiques, c'est quand même que les pouvoirs publics ont les moyens d'encadrer ou de réglementer les loyers. Hein. On peut ne pas laisser augmenter jusqu'au ciel les loyers. Il y a des pays d'ailleurs qui font ça très bien. Hein, un pays dont on parle peu, qui est notamment l'Allemagne. En Allemagne, c'est le seul pays, un des rares pays en tout cas dans l'Union européenne, où on n'a pas observé de spéculation immobilière au cours des 10 ou 20 dernières années.
On parle beaucoup de sa politique économique, mais on ne parle pas trop de sa politique de logement.
On ne parle pas de sa politique de logement, ça serait vraiment très intéressant, parce qu'en Allemagne, depuis maintenant, ça s'est mis en place dans les années 50, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. On a vraiment encadré les loyers, hein, c'est ce qu'ils appellent un système de miroir, c'est-à-dire avec des références très précises sur la mesure des loyers, sur leur évolution. Ça a permis quoi? Ça a permis d'une part de développer une offre locative tout à fait intéressante et d'autre part de limiter évidemment la spéculation foncière, puisque lorsqu'on a une offre locative abondante et relativement bon marché, en tout cas que les gens peuvent se payer, il n'y a pas besoin de courir après la spéculation foncière. Et donc ça, c'est aussi un instrument de politique économique tout à fait fondamental lorsqu'on raisonne sur la question du logement.
Oui, je confirme. Pas trop sur l'Allemagne, c'est ce que je connais pas assez, mais je confirme quant à la France, parce que c'est exactement le contraire. Monsieur Apparu, le ministre du logement, dit aujourd'hui aux bailleurs sociaux, il faut que vous construisiez sur vos fonds propres, donc les aides sont en nette diminution, et on incite les bailleurs à vendre le logement social pour dégager des fonds propres pour soi-disant reconstruire. Mais bon, chacun sait que vendre du logement social à des personnes qui sont déjà en difficulté financière, on va créer des îlots de misère où les gens ne pourront absolument plus rien faire, ne pourront pas entretenir le bien et ça sera catastrophique.
Bien, on avait envie aussi de vous poser une seconde question. Pierre Consaldi a produit il y a quelque temps de cela un papier intéressant sur la question des profits qui se dégagent hein, de ce logement cher. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est un peu dire d'un côté, il y a ceux qui payent, il y a ceux qui reçoivent. Parce qu'évidemment, le logement, on l'a vu dans ce début d'émission. Pour certains, il est y compris cher, même si les niveaux peuvent paraître bas comparativement à des locations pour les populations beaucoup plus aisées. Donc ce logement cher, finalement, à qui est-ce qu'il profite, Pierre Consaldi?
Alors, c'est une très bonne question.
Je vous remercie de l'avoir posée.
Et c'est la question que s'est posée la plateforme de logement des mouvements sociaux. Hein. En deux mots, cette plateforme, elle regroupe évidemment des associations qui luttent pour le droit au logement, le DAL, la CNL et d'autres, des syndicats.
Jeunes Noirs.
Voilà, exactement. Donc, un ensemble d'acteurs qui militent pour un accès au logement dans des conditions acceptables. Et donc effectivement, on se dit, si il y a d'un côté des gens qui payent de plus en plus cher et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que le coût du logement devient de plus en plus insupportable, bon, il y a bien que, de l'autre côté,
à l'autre bout de la chaîne,
voilà, des gens qui. Alors ça reste, moi, alors quand j'ai essayé de creuser cette question, j'ai découvert que c'était quand même, ça restait une boîte noire. Hein, on sait peu de choses. C'est un peu un maquis. Bon. Malgré tout, je passe sur les détails techniques, on peut arriver à identifier, bon, d'ailleurs, il y a une façon d'identifier qui est très simple, c'est de regarder dans la comptabilité nationale, une partie des revenus de la propriété sont des loyers qu'encaissent les ménages. Hein. Et ça, on voit très bien que ça a très très fortement augmenté, et c'est pas une nouveauté, depuis 30 ans. Quand on essaye de faire le bilan global, pas uniquement du côté des ménages, mais aussi en prenant en compte les entreprises, c'est ce qu'on a fait dans une note donc qui a été reprise par la plateforme logement et qui est sur le site du DAL. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on s'est posé la question suivante. Voilà, on regardait l'évolution des profits immobiliers liés à la location immobilière, hein, principalement. Et on s'est posé la question. Ce qu'on constate, c'est que ces profits, ils ont augmenté bien plus que les profits en moyenne, lesquels ont augmenté encore plus vite que les revenus du travail. Donc il y a vraiment un double décrochage, et notamment dans les années 2000, là, il y a vraiment une envolée fantastique. Donc ce qu'on a fait, on est très modeste, on s'est dit, si ces profits immobiliers liés notamment à la location avaient évolué simplement comme la moyenne des profits,
hein, donc on a un qui aurait déjà été pas mal.
Ce qui aurait déjà été pas mal, en tout cas bien plus que ce qu'ont eu les salariés. Qu'est-ce qu'on aurait eu? Et par différence, on a appelé ça des surprofits.
Voilà. Donc, lié à la spéculation immobilière.
Lié notamment à la spéculation, à tout ce qu'on vient d'évoquer, qu'on évoquera sans doute dans le cours de l'émission. Le bilan est assez édifiant, c'est que sur les 10 dernières années, en moyenne, tout ça a représenté 1,5% du PIB. Alors, c'est assez abstrait ce que je dis, le PIB, c'est l'ensemble des revenus perçus. C'est énorme. C'est-à-dire que 1% du PIB, c'est 20 milliards. 1,5, c'est 30 milliards. Et c'est pas nouveau. Hein. Ça s'est accéléré dans les années 2000, mais ça avait déjà commencé dans les années 90. Et c'était aussi déjà en germe dans les années 80. Donc lorsqu'on cumule l'ensemble de ces surprofits sur les 30 dernières années, on arrive à un chiffre de 450 milliards de surprofits. Voilà à peu près l'ordre de grandeur alors d'un côté des méfaits pour ceux qui l'ont subi en termes de coûts, et puis disons des profits effectivement qu'ont engrangé les spéculateurs.
Bien, effectivement, on voit bien que là les uns s'enrichissent quand les autres s'appauvrissent. On va faire une toute petite première pause avec un morceau des Vriegels, Petit Bonhomme. C'était les Vriegels, Petit Bonhomme. Nous reprenons donc notre émission avec donc sur Fréquence Paris Pluriel avec Pierre Concialdi. 106.3, absolument, merci. Avec Pierre Concialdi, donc chercheur et spécialiste des questions de précarité, ici interrogé sur la précarité du logement, et François Giunta, adjoint au maire de la ville de Saint-Ouen, adjoint sur les questions de logement également. Alors, on avait terminé cette première partie sur la question des surprofits, de la spéculation immobilière. Je crois que François Giunta a quelques mots à rajouter sur cette question.
Ben écoutez, oui, parce que c'est presque là aussi un des éléments les plus importants sur la question du logement, et encore une fois, du logement social. Donc évidemment, la ville de Saint-Ouen a cette particularité, hein, sous l'impulsion de son maire Jacqueline Rouillon, d'avoir imposé aux promoteurs, à travers une charte, des prix à la baisse sur le foncier.
Je serais tenté de vous couper tout de suite pour vous dire, mais comment peut-on imposer à des promoteurs une charte sur des prix à la baisse?
Bah, écoutez,
ça n'a pas dû être facile.
Au début, ça a été un bras de fer, bien entendu, ça n'a pas été facile. Mais écoutez, nous sommes des élus, nous construisons, donc nous avons la décision. Nous faisons, lançons les appels d'offres, nous mettons les gens en concurrence, comme la loi. Et nous disons, à un moment donné, il y a un plafond. Celui qui ne respecte pas le plafond, eh ben, il va construire ailleurs.
Et pour bien préciser, c'est du logement social ou du logement privé ?
Je parle du logement en général.
D'accord.
Donc là, on est dans nos 60-40. Que ce soit pour le privé, que ce soit pour le social, là, le promoteur, lorsqu'il construit, il y a un plafond. Voilà. On ne peut pas vendre. Alors bon, évidemment, quand pour moi, c'est quand nous vendons à des propriétaires qui sont des gens de la ville, des gens de couche moyenne, ou des fois des ouvriers très qualifiés, qui peuvent acheter et qui n'avaient jusqu'alors pas d'autre moyen que de s'en aller à 50, 80 kilomètres de Paris pour pouvoir acheter quelque chose, ben nous considérons que de pouvoir acheter aux portes de Paris quelque chose, même quand on est un cadre moyen, un ouvrier qualifié, eh bien ça doit pouvoir se faire. Et c'est pour nous, j'ai envie de dire presque la marque de fabrique de cette ville, qui est une ville populaire, qui tient le rester, mais qui est une ville où le vivre ensemble et la mixité sont un élément décisif pour ce qui fait un peu, je vous dis, la marque de fabrique de la politique de cette ville.
De manière chiffrée, qu'est-ce que ça donne, cette politique de contrat avec les promoteurs ? C'est des prix l'ordre de 10%, c'est ça, en dessous de ce que ça pourrait être si on laissait seulement le marché agir ?
Bah écoutez, de manière chiffrée, bon, Saint-Ouen est quand même placé à un endroit un peu particulier parce que nous sommes en bordure de Paris du 17e et du 18e, mais une partie importante du 17e arrondissement, et puis en bordure du 92 avec la ville de Clichy. Bah écoutez, on est en gros, vis-à-vis de Paris, alors je compare même pas parce que nous on est autour de 4 000 euros. Paris doit être surtout le 17e autour de 7 000, mais même la banlieue de la côté, enfin la ville de Clichy, ils sont au moins 1 000 euros plus que nous. Voilà. Donc du point de vue chiffré, on a maintenant des résultats et on voit qu'on est en capacité de. Bon, il faut avoir le courage politique de tenir ça. Je le dis, je pense que nous avons un maire qui a rien cédé, qui là-dessus n'a pas lâché. Évidemment, ça pourrait être simple. Il y a eu des recours, il y a eu toutes des batailles juridiques, etc. Mais le résultat, c'est que aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent se loger et acheter à Saint-Ouen à des prix qui restent pour moi des prix chers, mais qui n'ont rien à voir avec cette spéculation folle que nous voyons dans la région parisienne, surtout en première couronne.
Comme quoi, il n'y a pas de fatalisme sur cette question du logement. Il y a quand même des armes juridiques qui permettent aux élus, aux municipalités d'agir.
Alors oui, je vous dis, il y a des batailles juridiques, évidemment, parce que tout le monde n'est pas d'accord. J'entends des gens de droite chez moi hurler, mais écoutez, oui, il y a des possibilités, et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs villes commencent à s'interroger et à se dire que tout compte fait, c'est peut-être un moyen qu'il faut regarder, qu'il faut explorer. Je sais que le maire de Saint-Ouen est en train de discuter avec plusieurs maires autour pour voir s'il n'y a pas possibilité de fédérer sur cette question avec plusieurs maires.
Sur la question des contrats avec les promoteurs.
Sur la question, oui, donc d'une charte qui met un prix plafond. Alors évidemment, vous me parliez... je le dis parce que vous me posez pas la question, mais comme à chaque fois, c'est décrié dès qu'on passe sur des radios peut-être moins intelligentes que celle-ci. On nous dit oui, mais alors vous avez aussi une politique de préemption. Bah oui, évidemment, nous avons une politique de préemption parce que c'est la politique qui accompagne ça, parce que nous n'allons pas laisser des petits malins acheter à un prix bas grâce à la politique que l'on fait, des logements par dizaines, et puis après les revendre au prix du marché. Donc nous préemptons, parce que on peut pas revendre au prix du marché quand on achète à un prix bas. Donc on est là aussi, c'est pour maintenir le foncier à un certain niveau. Et je rappelle que le logement social en bénéficie, le foncier, je sais plus qui disait ça, mais j'aime l'expression, le foncier, c'est le pétrole du logement social.
Voilà. Oui, je crois que c'est une distinction tout à fait fondamentale, parce qu'on a beaucoup parlé de la pénurie de logements. C'est une évidence qu'il manque des logements, il faut en construire. Mais je crois qu'il faut, sur cette question du logement, il faut vraiment distinguer cette question du foncier et du coût de la construction. Parce que c'est évident que si les prix de l'immobilier ont flambé depuis 10, 15, 20 ans, c'est pas parce que le coût de la construction, il a également flambé. C'est uniquement en raison de la spéculation qu'il y a eu sur le foncier. Et donc là, je pense que c'est un point tout à fait capital. On peut très bien considérer, et, enfin bon, je ne vais pas prendre des références, mais je crois qu'on pourrait très bien montrer qu'il n'y a aucune raison que la terre, les terrains, fassent l'objet
d'une propriété privée.
D'une propriété privée et soit de marchandage, donc qu'il soit, et le prix soit établi par le marché. Ça doit être de l'ordre
du
bien commun, de la puissance publique, et ça doit être tout à fait. Enfin bon, l'exemple de Saint-Ouen est tout à fait éloquent là-dessus, mais je veux dire, ça ne devrait pas être l'exception, je veux dire, ça devrait être la règle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, après qu'on puisse louer. Le terrain, que les gens puissent l'utiliser pour construire des maisons, tout à fait. Ils ont le droit, bon, on peut considérer que chacun peut avoir un chez-soi, en dur, dans la maison. Mais l'espace, il n'appartient pas spécialement à quelqu'un. Il est de l'ordre du bien commun. Et c'est, je crois, ce que montre très bien, notamment, l'exemple de la ville de Saint-Ouen.
Cet exemple que vous avez cité pour Saint-Ouen pose un petit peu la question, vous l'avez d'ailleurs abordé, hein, de la mixité dans les villes où on a une présence importante, disons, de ménages dont les revenus ne sont pas parmi les plus élevés. Comment est-ce que vous traitez cette question de la mixité sociale ? Parce que on voit bien, hein, il y a une vraie volonté de certaines municipalités, voire de certains conseils généraux, pour concentrer les populations les plus pauvres dans certaines municipalités et de, évidemment, construire des zones beaucoup plus huppées sur certaines municipalités. Comment est-ce que vous gérez cette question un peu compliquée ? Parce que à la fois, vous êtes bien évidemment amené, comme vous l'avez dit, à essayer de faire que ces populations ne soient pas renvoyées à 80 km de Paris et ensuite non seulement et des loyers importants, mais en plus des transports, des coûts des transports tout à fait importants, avec les questions de pollution qui vont avec, évidemment. Voilà, un petit peu, je serais intéressé que vous répondiez sur ces questions.
Alors bon,
c'est une sacrée question. Bon, comment vous gérez ça?
Alors, je vais essayer de répondre en vous donnant deux trois éléments qui me paraissent importants pour comprendre un petit peu la situation dans laquelle nous sommes avec cette question-là. Bon, d'abord, quand vous me dites qu'il y a certaines municipalités, conseils généraux, je sais pas à quoi vous voulez faire allusion, mais moi, ce que je sais.
Je pensais particulièrement 92, par exemple. On voit bien qu'il y a une concentration de certaines populations dans certaines municipalités et d'autres.
Absolument. Moi, ce que j'ai pas oublié, les ghettos du Gotha, qui avait été un livre des sociologues Pinson, qui montrait ça très bien, mais il y a toujours eu, de la part des gens qui sont les tenants des richesses, cette espèce de tentation de mettre des territoires de côté où on accumule tous les gens qui sont en difficulté pour pouvoir dégager des territoires pour ceux qui sont dans des conforts assez importants. J'ai même presque envie de dire, c'est pas un gros mot, mais c'est presque le principe du capitalisme. Le Bronx, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Et Manhattan, juste en bas avec Wall Street, c'est dans le même pays. Donc il y a toujours eu cette tentation là. Et nous sommes aussi dans une difficulté, parce que on sent bien qu'il y a de la part du pouvoir central cette tentation de mettre là où on a les gens les plus en difficulté. Donc c'est une bataille très très importante pour pouvoir y résister.
Ça veut dire aussi que vous êtes amené en tant que responsable de la commune de à la fois de permettre aux populations les moins fortunées de continuer à vivre sur la commune, mais en même temps de construire une mixité telle qu'on ne soit pas dans une situation où Saint-Ouen soit transformé en ghetto. C'est un peu ça ma question.
Oui, mais c'est tout à fait ça. Le fait de pouvoir baisser le prix de la construction pour les gens qui veulent acheter, permet à des populations qui ne sont pas des populations extrêmement riches, mais qui sont les populations notamment des gens qui travaillent dans les entreprises de la ville. Nous avons 55 000 salariés à Saint-Ouen. Voilà. Il y a des... Donc, ça permet à ces personnes-là qui ont la chance d'avoir un travail qui, pour certaines, sont des cadres moyens, de pouvoir acheter et donc de vivre en communauté avec les personnes qui n'ont malheureusement pas cette possibilité-là, mais qui bénéficient d'un logement social qui, pour le coup, peut aller moins cher parce que le fait de jouer sur le foncier nous permet de tirer aussi vers le bas le prix du logement social. Donc ça nous permet ça. Mais bien évidemment, quand je vous disais c'est une bataille, bien évidemment, nous sommes en première couronne et nous avons d'autres phénomènes à combattre. Je pense aux marchands de sommeil qui sont installés en première couronne, qui profitent de la misère humaine et qui piègent évidemment des familles parce qu'il n'y a pas assez de logement social. Donc les familles se trouvent piégées dans des conditions inacceptables, infâmes. Il y a encore du plomb, il y a encore du saturnisme dans ces immeubles-là.
Dans Paris, vous voulez dire en particulier?
Non, mais y compris à Saint-Ouen. Nous en avons éradiqué en un mandat plus de 400 des logements. Mais ça nous coûte, alors là pour le coup, une fortune. Ça nous coûte en temps et en bataille juridique des choses assez incroyables. Bon, on gagne, hein, parce que je vous dis, on a réussi à éradiquer. Mais c'est un combat sans cesse, un combat de tous les jours. Sans ce combat, l'élu que je suis, qui peut être amené à reloger ces personnes piégées. Dès que je la reloge, le marchand de sommeil me repiège une nouvelle famille, puisqu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Et donc,
l'impression est forte.
C'est un puissant fond, c'est le tonneau des Danaïdes. Et c'est comme ça qu'on paupérise la ville. C'est comme ça que l'on combat la politique de cette ville qui est justement la mixité, le vivre ensemble. Donc ce sont des éléments qui, évidemment, on ne peut pas ne jamais reloger les gens qui sont dans ces catastrophes-là parce que c'est inhumain. C'est inhumain de faire ça.
Écoutez, sur je pense qu'on est là sur une bonne transition pour à ce moment-là passer l'interview de Pierre Tartakovsky, donc qui est, je le rappelle, président de la Ligue des droits de l'homme et qui que nous avons interrogé sur justement la mise en place d'une structure de lutte contre l'hébergement et l'organisation de droits en matière d'hébergement d'urgence.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes président ici même, donc la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi cette initiative aujourd'hui alors qu'on sait très bien que la misère du monde date depuis des décennies et que même l'abbé Pierre en 54 avait commencé à tirer le signal d'alarme? Pourquoi avoir attendu pour créer un nouvel outil fédérateur?
Alors d'abord, nous n'avons pas attendu ni pour découvrir la misère du monde, ni pour la combattre, parce que nous pensons que la misère du monde n'est pas une bonne chose pour le monde et que si on veut faire respecter les droits, ça demande d'affronter la misère. Mais nous n'avons pas attendu, nous avons simplement saisi très rapidement une opportunité juridique qui nous est offerte par une jurisprudence du Conseil d'État, lequel Conseil d'État se tourne vers l'État et lui dit en substance « Vous êtes responsable de la situation des gens qui ont besoin d'un hébergement d'urgence et à qui vous le refusez. Cela fait partie de vos responsabilités, donc aux actes. » À partir de là et en quelques jours, un collectif d'associations à l'initiative du DAL s'est monté pour mettre à disposition de tous ceux qui sont préoccupés par cette question un outil. Ça prend la forme d'un 115juridique.org, un site internet qui fournit des informations, quelques outils juridiques à tous ceux qui veulent pouvoir saisir la justice sous forme de référé. Le référé est une procédure gratuite. C'est une procédure rapide. Ça demande évidemment un relatif savoir-faire et le fait d'être épaulé par des juristes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même à portée de main, d'une part, et que d'autre part, cela implique avec force que le logement est un droit, que l'hébergement est un droit, et qu'on ne peut pas, quand on a à charge les affaires publiques, s'en désintéresser ou considérer que c'est à l'hiver de régler ça par des modes darwiniens ou au marché en s'en remettant à lui.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie en créant cet outil de s'attaquer un petit peu aux politiques hein, et également aux entrepreneurs qui ont beaucoup de logements vides aussi dans les entreprises? Parce que j'ai entendu tout à l'heure l'avocat qui disait qu'effectivement il y avait une pénurie de logements, mais de l'autre côté il y a aussi des dizaines de milliers de logements vides que personne ne prend finalement, hein, et sauf le DAL de temps en temps quand ils font des occupations. Donc est-ce que c'est une façon de prendre part un petit peu à la vie politique de la société, enfin de la cité, et de faire en sorte que les politiques s'intéressent un petit peu plus au logement aujourd'hui qu'hier?
La stratégie, c'est de mettre à disposition un outil qui soit efficace, qui soit crédible et qui soit performant sur la question de l'hébergement. Bien évidemment, la question de l'hébergement est inséparable de la question du logement, et ce logement est en crise. Il est en crise parce qu'il y a eu des politiques publiques qui ont considéré que c'était une marchandise, qu'il fallait donc arrêter de subventionner le logement social, qu'il fallait encourager une politique d'accession au logement, à la propriété, pardon, politique dont on a vu les effets dans la sphère financière, et une politique qui a délibérément considéré que dans les tensions qui existaient entre le foncier et les gens qui ont besoin d'un logement, il fallait favoriser les acteurs du foncier. Alors dans ce contexte, ça génère des logiques d'appropriation, des logiques spéculatives, des logiques aussi qui n'ont rien à voir avec le logement mais qui ont à voir avec un refus de mixité sociale. Je pense à un certain nombre de municipalités, pas toutes de droite d'ailleurs, il faut le regretter. Et donc évidemment, notre démarche, comme toutes celles que nous entreprenons, s'articule aux autres, vise à créer les conditions d'un débat d'ensemble, donc d'un débat politique. Mais je le signale, c'est sur une question très complexe. Il s'agit plus pour nous de voir comment nous pouvons rassembler des gens que de pointer du doigt des responsables. Oui, il y a des appartements vides. Oui, il y a de grandes institutions bancaires ou financières qui sont propriétaires et qui spéculent sur des logements vides en attendant que ça monte. Voilà, bon. En même temps, ça n'est, hélas... Ça n'est hélas qu'une partie du problème. Le problème est compliqué, il consiste à trouver des terrains, à les acheter à un prix qui soit raisonnable et qui, en étant raisonnable, ne pèse pas sur le niveau des loyers. Ça demande des accords des collectivités territoriales entre elles. Ça demande une politique d'État qui soit d'abondement et de soutien. C'est vraiment des questions lourdes. Alors, chaque geste, chaque mobilisation compte, mais doit être replacé dans le contexte d'une lutte d'ensemble qui prendra de nombreuses années.
Ok.
Eh bien, effectivement, on voit bien là, avec l'intervention de Pierre Tartakovsky, que les questions qu'on vient d'évoquer là pendant ce début d'émission sont reprises, hein, toutes, pour ainsi dire, par Pierre Tartakovsky. La question du foncier, visiblement tout ce que nous avons pu discuter dans ce premier temps ont bien été repris là. Et alors, simplement là, la nouveauté, c'est que se monte un service pour aider les personnes qui sont là, même pas dans le logement, mais hébergées, voire dans la rue, pour pouvoir faire valoir leurs droits. Alors moi, je serais tenté d'abord demander un petit peu de réagir l'un et l'autre, hein, cette intervention de Pierre Tartakovsky, et puis peut-être de terminer notre émission sur la question justement des droits, puisque c'est celle-là qui est posée par ce passage, cet extrait. On a la loi Dalo, hein, qui théoriquement permet le droit au logement, hein, le droit opposable au logement, qui permet de se retourner vers l'État, hein, lorsque un ménage, une personne est considéré comme prioritaire et devant accéder au logement. Voilà, j'aimerais bien qu'on termine un peu sur cette question des droits et la capacité de mobiliser ces droits, parce qu'effectivement des droits c'est bien, l'effectivité des droits c'est un petit peu mieux. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que la loi Dalo est véritablement effective ou pas? Pierre Concialdi.
Oui, par rapport à ce qu'a dit Pierre Tartakovsky, enfin juste deux petites remarques, hein, parce que la première, juste pour rappeler que malheureusement Dans le réseau d'alerte sur les inégalités, on tient un baromètre, et dans ce baromètre, il y a un indicateur qui est le nombre d'expulsions. Et bon, je rappelle juste que ce nombre d'expulsions, il n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Ouais, il a augmenté de façon considérable au cours des dernières années. Bon, évidemment, quand on expulse des gens, il y a un certain nombre qui ont des difficultés à se loger et qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, première chose. La deuxième chose, je crois qu'on boucle sur la question du logement d'une certaine façon. Je dis ça pourquoi ? Parce que il y a quelques années, avec des collègues, on avait réalisé pour la mission pauvreté de la région Île-de-France une enquête sur les travailleurs pauvres. Et on avait interrogé un certain nombre de personnes qui étaient justement dans les centres d'hébergement et puis aussi les responsables de ces centres. Qu'est-ce qu'ils nous disaient ces responsables il y a déjà 5 ans hein ? Ils nous disaient que les personnes qui venaient dans ces centres étaient de moins en moins des personnes en situation d'hébergement d'urgence, mais de plus en plus des gens qui avaient un travail, des ressources, mais qui ne pouvaient pas trouver simplement à se loger compte tenu des niveaux de loyer. Et donc qui, au lieu de rester 3 mois, 6 mois, dans l'idée que ce serait une transition vers un logement stable, n'avaient pas d'autre solution
que l'hébergement.
Que l'hébergement. Et donc je crois que on boucle sur la question, c'est-à-dire évidemment il y a un droit, donc c'était le point de départ de l'interview de l'entretien avec Pierre Tartakovsky, il y a un droit qui vient d'être reconnu et qu'il faut
à l'hébergement
et dont on peut, même si c'est un peu compliqué, se saisir à travers la procédure qu'il a expliquée.
Rappelons-le, droit qui s'exerce, y compris en direction des immigrés sans papier.
Oui,
c'est un droit tout à fait inconditionnel qui ne répond pas au fait qu'on soit français ou non français, immigré ou non immigré.
Tout à fait, j'allais dire, c'est la moindre des choses, hein, je veux dire. Mais on voit bien là qu'on est à la frontière des questions qu'on a précisément évoquées avant. Il ne s'agit pas de traiter une question spécifique, mais qu'elle est en lien avec toute la problématique qu'on a évoquée précédemment, c'est-à-dire le foncier, la question du logement, et là, je peut-être passe la parole.
François Jeunetin. Effectivement, c'est complètement lié, et moi, je voudrais dire quand même quelque chose par rapport à ça. D'abord pour dire qu'il y a tellement de sans-droits que lorsqu'il y a un droit supplémentaire, j'ai envie de dire, c'est déjà ça de prix. Et j'espère que les associations, les premiers intéressés sauront l'utiliser pour pouvoir se défendre, parce que sans domicile c'est dur, sans domicile et sans droit c'est encore plus dur. Donc voilà. Mais en même temps, je suis bien obligé de constater que des droits sont souvent dévoyés. Voilà. Moi, le droit opposable au logement.
Comment est-ce que vous pratiquez sur la
d'abord,
ville ?
D'abord, le droit opposable au logement, c'est pas comment nous pratiquons sur la ville. Il y a une commission départementale.
Absolument.
Donc, c'est pas tout à fait voilà. Donc, des gens ont ou répondent aux critères donnant ce fameux droit opposable au logement. Ils remplissent.
Ils sont prioritaires.
Ils sont prioritaires. Et une commission départementale se réunit pour dire s'ils peuvent.
Oui ou non.
Bon, moi, je ne veux pas en préjuger, mais vu le nombre de demandeurs de droits opposables au logement et le nombre de personnes qui travaillent dans la commission, ils n'ont pas le temps de travailler
sur le fond.
Sur le fond, voilà. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Heureusement, des gens ont droit. Voilà. Donc ça, on peut se dire, malgré tout, bon, c'est quand même quelque chose. Sauf que le gouvernement a décidé... contre toute attente, de dire, écoutez, maintenant, le droit opposable au logement, ville de Saint-Ouen, sur votre contingent, vous m'en mettrez 15%. Contingent du préfet, il dit, moi, j'en mets 80%. Et puis, contingent 1% patronal, ils auront pris l'argent, puis ils auront dit, vous aussi, maintenant, vous mettez du droit opposable au logement. Pourquoi ils font ça ? Parce que, au fond, c'est le partage de la misère. Il n'y a pas assez de logements, donc on partage. Alors là, ils disent, écoutez, on va partager en donnant un peu plus à ces gens qui sont dans cette difficulté-là. Donc là, pour le coup, ils nous cassent la mixité. Là, pour le coup, en tous les cas, les villes qui font le plus de logements sociaux, quand elles sont soumises à cette façon d'exercer ce droit, elles se paupérisent. Voilà.
En fait, la loi SRU, les effets de la loi SRU rejoignent les effets de DALO, et Et les mêmes communes
C'est-à-dire qu'une ville comme Saint-Ouen qui dit la loi SRU nous impose 20% de logements sociaux. Nous, nous en faisons 40 parce qu'on considère que cette population avec 20, on va l'éjecter. On veut garder cette population près de Paris. Elle se trouve quelque part sanctionnée par rapport à la ville d'à côté qui fait... Enfin, d'à côté, c'est une manière de dire parce que la ville d'à côté, il n'y a pas de problème. Je vais pas disputer avec mes voisins. Mais avec la ville du Raincy, en Seine-Saint-Denis, ou de Neuilly, de l'autre côté, dans le 92,
qui... Ils ont pris au hasard.
Ouais, au hasard. Hein, voilà. Qui disent, ah ben nous, on a 3% de logements sociaux, on n'en veut pas plus. Ils payent une amende, puisque la loi, etc., avec les impôts locaux...
Tout à fait symbolique.
Assez faible.
Symbolique, avec les impôts locaux
pour eux,
de leurs concitoyens. Et voilà. Voilà. Donc, il y a un droit que je ne dénonce pas, puisque bon, voilà. Mais on dévoie quelque part ce droit, parce que la loi SRU, elle, n'est pas appliquée. Ça devrait être... c'est un droit aussi, quelque part. Et quand il y a une loi, le minimum... C'est qu'elle soit respectée. Elle ne l'est pas. Et une façon très facile de la faire respecter, c'est le préfet nous impose des choses. Quand on ne veut pas les faire, ben, il intervient. Il y a une façon très simple. Le maire qui ne veut pas respecter la loi de 20%, je propose que le préfet dise, ben voilà, nous vous obligeons et nous mettons
nous
en route.
Nous préemptons.
Nous préemptons des terrains, nous mettons en route la construction de 20% de logements sociaux. Et je vous assure que s'il y avait 20% de logements sociaux sur toutes les villes de l'Île-de-France, nous ne parlerions pas ici de ce problème crucial du logement.
Qui, c'est vrai, on ne l'a pas dit, mais qui est quand même très, très largement... je dirais le fruit cantonné sur l'Île-de-France. C'est quand même l'Île-de-France qui concentre véritablement les difficultés de logement. Paris, les grandes villes, disons, c'est là où véritablement...
Vous avez raison, parce que j'ai vu une émission où Apparu expliquait qu'il y avait des logements vides, je ne sais plus dans quelle petite ville de province, où une entreprise assez importante était venue s'installer et donc des constructions avaient été faites. Et puis l'entreprise a délocalisé, donc évidemment il y a des logements vides. Voilà. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des cohérences, il y a des politiques qui sont extrêmement cohérentes et qui vont dans un sens de rabaisser à chaque fois un certain nombre de possibilités pour les gens pour vivre bien. Voilà, enfin bien, pour vivre normalement,
normalement
de vivre
dignement.
À peu près dignement. Et que ce soit par les délocalisations, par les casses d'emploi, par les zones extrêmement tendues sur le logement, bah par tous ces moyens-là, on empêche les gens de pouvoir avoir une vie digne. Et on a donc les gens qui sont hébergés à la rue. La cinquième puissance mondiale ou sixième, je ne sais plus, incapable de pouvoir loger. Ces habitants, c'est absolument insupportable. Insupportable.
Bien, bah écoutez, je propose une nouvelle pause musicale avant de conclure cette émission. Après cet intermède musical, nous allons...
Les Rolling Stones, Painted Black.
Absolument. Les Rolling Stones, Painted Black, tout le monde a reconnu. On va terminer peut-être par deux questions courtes. Alors, une à Pierre Concialdi sur la question des... Sur la question
des droits.
Des droits. Pardon.
Non, mais effectivement, c'est dans le prolongement de ce qui a été dit sur le DALO, mais je pense qu'il y a l'envers du DALO. C'est-à-dire que, bon, la question de fond, c'est quand même... Enfin, ce qui illustre très bien la question de logement, c'est le dilemme, en tout cas l'antagonisme, éventuellement, entre ce droit-là, le droit au logement, et puis le droit de propriété. Hein, c'est ce que disait Pierre Tartakovsky aussi, c'est-à-dire réquisition. Enfin, c'est ce que demande aussi la plateforme de logement des mouvements sociaux. Hein, c'est... Il y a des logements vides, c'est absurde qu'ils restent vides. Et là, pourquoi c'est une très bonne illustration ? Parce que ça montre bien que le droit de propriété, c'est d'abord un droit d'exclusion. C'est d'abord le droit d'exclure les autres d'avoir l'usage de certains biens. Voilà. Alors ça peut éventuellement justifier dans certains cas, je sais pas, ma brouette, mon automobile, mon vélo, bon, d'accord, peut-être pas, peut-être, mais il y a des choses, il y a des biens essentiels et fondamentaux sur lesquels ça peut pas se justifier. Et donc là, on est au cœur de ce dilemme ou de cette contradiction. Et je pense que là, effectivement, s'il y a quelque chose qu'il faut faire, une ligne qu'il faut faire bouger, c'est sur ce droit-là et sur la hiérarchie des droits. On est en plein dans, on est exactement dans ce conflit-là.
Et justement, vous me disiez là pendant l'intermède musical sur la ville de Saint-Ouen, effectivement, vous aviez mis en place des...
On essaye de faire respecter au maximum ces droits-là. Et donc, je le dis parce que nous avons par exemple, par le biais préfectoral, des gens qui ont le droit au dalo et qui sont, et bien évidemment que ces gens-là ont raison, sauf que la personne, si elle habite au Rincy, c'est quelqu'un qui est en difficulté, ce sont des familles en difficulté du Rincy qui, par le biais du dalo, vont aller dans une ville populaire. Voilà. Et donc, on voit bien comment le dévoiement se fait. Par ailleurs, il faut... Pour ce qui nous concerne, en tous les cas, nous avons la volonté de ne pas laisser toutes ces personnes dans ces difficultés-là. Et comme tu le disais, Pierre, il y a à la fin, quand tout ça ne fonctionne pas, ça finit par une expulsion. Bon, nous, à Saint-Ouen, je ne dis pas que c'est la panacée, mais j'ai une de mes collègues, une conseillère municipale, dont la délégation, c'est la prévention des expulsions, donc pour s'y intéresser en amont. Et mener là aussi, c'est une bataille de tous les jours, parce que ce sont des méthodes d'un autre temps qui ne devraient pas exister. Voilà.
Bien, écoutez, je crois que nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Donc,
on va remercier Gilles pour le son, pour l'interview du président de la LDH, Gilles Dassé, que vous retrouvez la plupart du temps sur ce créneau. La semaine prochaine, on inverse le calendrier, on revient dès la semaine prochaine.
Absolument, la Fondation Gobier sera présent. Nous traiterons là la question des droits des LGBT, donc ça sera une question tout à fait différente de celle du logement. Et on invitera à la fois des acteurs et un chercheur qui travaille sur...
LGBT pour les non-initiés.
Eh bien, LGBT, homosexualité, on parlera en particulier de l'homoparentalité. Ce sera ça le sujet spécial de cette émission. Et donc, rappelons simplement que vous retrouvez toutes ces émissions sur le site de la Fondation Copernic, donc fondationcopernic.org, et également sur le site de l'AC, Mode d'emploi.
On remercie Pierre Concialdi et François Genta, et également CP Productions, la société de production qui produit les films de Pierre Karl à Montpellier. Il nous a envoyé un film, on n'a pas pu vous en faire profiter puisqu'il était en espagnol et en catalan, donc c'était un peu compliqué. Et on termine avec une chanson de Circonstance, Renaud dans mon HLM.
Les bons qui jouera, le bien, le joie, il se retrouve.